Et si vous affirmiez votre côté rock?
DS Automobile présente DS3 Café Racer.
Avec sa sellerie en cuir Napa, ses tatouages rock et raffinés, sa calandre noire texturée, son pavillon vintage crème Parthénon, cette citadine impertinente révélera votre côté rock. DS3 Café Racer, nouvelle édition limitée produite en France.
DS Automobile.
Jusqu'au 30 juin, pour l'achat de DS3 Café Racer, DS Automobile reprend votre véhicule 3000 euros au-dessus de sa valeur. Détail de l'offre sur dsautomobile.fr.
Europe 1. Ondelatte raconte.
Bonjour à tous, je vais vous raconter aujourd'hui une histoire extrêmement touchante. L'histoire de Solène, Solène Revol, qui est là face à moi et que je suis très heureux d'accueillir cet après-midi sur Europe 1. Bonjour à vous Solène.
Bonjour.
Vous avez 19 ans aujourd'hui, je pense, si j'ai bien compté. Il y a 4 ans, vous avez basculé dans l'anorexie mentale et vous racontez le chemin qui vous a vu plonger jusqu'à 33 kilos, puis remonter aujourd'hui à combien ?
Aujourd'hui, je suis à 46.
46, donc 4 de moins au fond que le poids que vous aviez quand vous avez entamé votre descente. Vous racontez tout ça dans un très beau livre qui vient de paraître chez XO. Une petite voix me disait de maigrir encore. C'est un livre qui a été écrit à 4 mains. La vôtre, celle de votre maman, celle de votre papa et aussi celle de cette petite voix intérieure et maléfique qui vous disait sans cesse que vous étiez trop grosse. C'est un livre dont j'ai tiré l'histoire que voici, écrite avec Emmanuel Denise, réalisation Céline Lebras, mise en onde Jean Lénaf. Solène a 15 ans, parfaite, l'adolescente idéale. De jolis yeux bleus, de longs cheveux bruns qui descendent sur ses épaules, et avec ça, première de sa classe. Déléguée de classe, évidemment, et même déléguée des délégués, représentante de tous les élèves de son lycée. Et dès qu'elle a fini ses cours, hop, elle rentre, elle fait ses devoirs. Et quand elle a terminé, hop, elle file à son entraînement de basket. Et à part ça, sociable, hein, des copains, des copines, elle commence à s'intéresser aux garçons, la gamine idéale. Et d'ailleurs, tout le monde l'aime, Solène. Tout le monde. Alors est-ce que d'être aimé, d'être montré en exemple, ça rend heureux? Eh bien non, malheureusement. La preuve. La scène se passe à la cantine de son lycée, en 2014. Solène est avec sa copine Inès.
Ça va pas, Inès? T'as pas touché à ton plateau? T'as rien mangé? Tu fais un régime ou quoi? Ah non, pas du tout. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui n'a pas besoin de faire un régime, c'est toi. Hein. T'es parfaite. Tu n'es ni trop grosse, ni trop fine, ni trop grande, ni trop petite. J'aimerais bien être comme toi. Non, non, je t'assure. Je n'ai pas très faim, c'est tout.
La conversation ne va pas plus loin. Mais pile à ce moment-là, Solène entend comme une petite voix dans sa tête qui lui dit
« Évidemment qu'elle ne mange pas beaucoup. C'est pour ça qu'elle est belle et fine. »
C'est comme ça que ça commence. Et sans trop s'en rendre compte, tous les jours, Solène se met à lorgner sur le plateau d'Inès. Elle n'a pas les deux yeux fixés sur le plateau, hein. Elle donne des petits coups d'œil comme ça, l'air de rien, pour vérifier que sa copine mange comme il faut. Et les jours passent, les semaines, et un après-midi de juin, Solène est dans sa chambre. Sa mère l'appelle.
Solène, viens, j'ai acheté des cookies à la boulangerie pour le goûter.
Et elle répond.
Non, c'est bon, maman. J'ai pas faim.
Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? D'habitude, elle adore les cookies. Le soir même, elle est à table avec ses parents et son petit frère. Sa mère a fait une quiche. Ça va pas, Solène? Bah, tu manges rien. Pourtant, t'adores la quiche. Oui, oui, ça va. C'est juste que j'ai bien mangé à la cantine.
Et elle ajoute, comme pour se justifier.
Moi, je mange bien, maman. C'est pas comme Inès. Elle doit sûrement faire un régime, je vous jure. Vous la verriez au self, elle mange quasiment rien.
À la fin du mois de juin, c'est le premier dimanche des vacances.
Et comme souvent le dimanche, Solène va courir avec son père. 8 kilomètres. Pas mal. C'est une bonne sportive. En rentrant, elle prend sa douche et juste avant, elle fait quelque chose qu'elle n'a pas fait depuis un bout de temps. Elle monte sur la balance. 52 kilos. Je vous le dis, pour 1m60, à cet âge, avec la croissance, c'est pile ce qu'il faut. Mais ça n'est pas ce qu'elle pense. Elle, dans sa petite tête, elle se dit « Quand même, 1 ou 2 kilos en moins, ça serait pas si mal, hein ?» Alors du coup, elle se fixe un objectif raisonnable. 50 kilos pour la fin de l'été, 2 kilos à perdre, c'est pas grand-chose. Oui, à 50 kilos, je serai parfaite. C'est comme ça que ça commence.
Europe 1, Ondelatte raconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Solène, Solène Revol. L'histoire donc d'une jeune anorexique qu'elle raconte dans un livre qui vient de paraître chez Ixo. Une petite voix me disait de maigrir encore. Et on est au tout début de son histoire. À 15 ans, elle est sur le papier l'adolescente idéale. Jolie, meilleure élève de sa classe, déléguée de classe, sportive, mais du genre qui veut tout contrôler. Au début de l'été 2014, elle se fixe comme objectif de perdre 2 kilos pour arriver à 50 kilos tout rond, en se disant « là je serai parfaite ». Et vous savez combien elle pèse à la fin de l'été ? 48 kilos, encore mieux ! Elle a perdu 4 kilos. Elle se regarde dans la glace, dans la salle de bain. Pas mal. Et comment Solène est-elle arrivée à dépasser son objectif? Oh, c'est pas bien compliqué. Hein. Elle n'a pas mangé un seul magnum de l'été et zéro friandise. Et quand il y avait de la pizza, elle n'en a mangé qu'une toute petite part. Et à côté, elle a fait du sport. Voilà. Voilà comment on perd 4 kilos en un été. Arrive la rentrée des classes. Solène entre en première S. Et demain, il y a contrôle de maths. Et là, je vous jure qu'elle est parfaitement prête. Elle a 19 de moyenne en maths. Alors elle ferait bien d'aller se détendre, de regarder par exemple un bon film à la télé. Eh bien non, c'est pas le genre. Elle révise encore, jusqu'à plus de 11 heures, et là, sa petite voix lui dit « Tu vas te planter. Ah, c'est sûr, tu vas te planter, hein. T'as pas assez travaillé. » Et là, elle est sur le point d'éteindre son ordi, et elle se dit « Tiens, au dîner tout à l'heure, j'ai mangé une demi-part de flammekuche. Ça fait combien de calories, ça ?» Alors elle pose la question à Google, qui la renvoie sur lescalories.com. Un super site, hein. Dans une case, tu mets ce que t'as mangé, à côté, la quantité, et hop, ça te donne ton bilan nutritionnel. Et la petite voix lui dit « Avec tout ce que tu manges, c'est pas étonnant que tu sois énorme. » Je vous l'ai dit, Solène fait du basket depuis 7 ans. Ce soir, elle a un match, et sa mère est dans les gradins. La maman d'une de ses copines vient lui dire « Dites donc, qu'est-ce qu'elle a maigri, votre fille ? C'est normal ? Elle mange bien ?» La mère de Solène ne sait pas trop quoi répondre. Ça s'est passé progressivement. Pour être honnête, elle ne s'en est pas aperçue. Alors elle dit « Oui, oui, ça va. » Et quelques minutes plus tard, arrive un autre parent d'élève. « Elle va bien, Solène ?» Bah dites donc, elle a drôlement maigri tout de même, non? Ah bon? Vous trouvez? J'avais pas remarqué. Et pourtant, c'est vrai qu'elle a maigri. Quand Noël arrive, la balance affiche 44 kilos. Je vous rappelle qu'elle en faisait 52 en juin, moins 8 kilos. Et qui dit Noël dit par exemple foie gras. Solène va faire un tour sur lescalories.com. Ouïouïouï, pas question de manger ça. Alors elle coupe sa tranche en petits bouts. Elle met le premier sur un petit morceau de pain. Et puis comme finalement le pain ça fait grossir, elle mange ses petits bouts sans pain. Et assez vite, elle passe son assiette à son petit frère. parce que bizarrement, ça lui fait plaisir de voir son petit frère gober ses petits bouts de foie gras. Et après le repas, sa tati vient lui dire « Bah dis donc, Solène, t'as maigri, hein ? Oh, là c'est vraiment flagrant !» Et la mère qui embraye « Elle fait tellement de sport aussi, elle n'arrête pas, je la trouve presque trop maigre !» Solène pourrait prendre les réflexions de sa mère et de sa tante pour des compliments. Eh bien non, au contraire.
« Trop maigre ! Trop maigre, c'est la meilleure !» Pourquoi pas anorexique tant qu'on y est ?
Tiens, le mot est dit. Mais à part ça, elle se regarde dans la glace et ce qu'elle voit, c'est une grosse fille informe. Et elle ne ment pas quand elle dit ça. Elle est sincère. Elle voit vraiment une grosse fille. Mais dès le lendemain, le corps parle. Au petit-déj, elle avale un demi-bol de céréales. Et elle part faire un footing avec son père et son oncle. Elle a du mal à arriver au bout. Et comme ça, au fil des semaines, les kilos s'envolent. 44, 43, 42... 41, 40. Solène a maintenant des cernes creusées sous ses yeux bleus. Et elle flotte dans ses vêtements. Elle a toujours froid. Elle est toujours fatiguée. Elle perd ses cheveux. Ses ongles se cassent. Et à ce moment-là, sa mère commence à s'inquiéter. Mais elle se dit, c'est l'adolescence. Le corps change. C'est dur pour les parents d'accepter la réalité. Au début, on se ment. Et sa mère, évidemment, ne sait pas que le soir dans sa chambre, Solène pleure pendant des heures. Elle ne sait pas non plus que Solène se fait parfois vomir après les repas. Un jour, elle va à la piscine. Les copines sont sans pitié.
« Oh, Solène ! Qu'est-ce que t'es maigre ? T'as que la peau sur les os ?»
Ça ne sert à rien de le lui dire. Elle ne l'entend pas. En revanche, elle entend bien la petite voix qui lui dit
« N'importe quoi ! Tu n'es pas maigre ! Tu es boudiné ! Tu es énorme ! Tu es immonde ! Ne les écoute pas !»
Une nuit de janvier 2015, un peu avant 4 heures du matin, Solène ouvre les yeux d'un coup, une urgence. Elle se jette sur son téléphone portable et elle tape « anorexie définition ». Alors, anorexie, maladie de la catégorie des troubles du comportement alimentaire. Et là, elle éteint immédiatement.
« C'est ridicule, tu n'es pas malade. Les kilos, tu les reprends quand tu veux. D'ailleurs, tu ne veux pas, puisque tu es trop grosse. »
Elle n'arrive pas à se rendormir. Elle pense aux pâtes qu'elle a mangées au dîner. Il faut les éliminer. Alors elle se relève et elle entame des séries d'abdos.
Une, deux, une, deux.
Pour être parfaite, il faut savoir souffrir un peu.
Une, deux, une, deux.
Raconte.
Aujourd'hui, l'histoire de Solène Revol, l'histoire d'une jeune anorexique qu'elle raconte dans un livre qui vient de paraître chez Ixo, Une petite voix me disait de maigrir encore. Elle sera avec moi dans un instant. Au début de l'été 2014, Solène, 15 ans, décide de perdre 2 kilos avant la rentrée. Et finalement, elle en perd 4. Et c'est le début d'une lente dégringolade à l'écoute de cette petite voix qui lui dit « Tu es boudiné, tu es énorme, tu es immonde. » À la fin du mois de janvier 2015, Solène se pèse, comme tous les soirs, 39 kilos. Elle a perdu 13 kilos en 6 mois. Et néanmoins, elle va sur lescalories.com pour calculer ce qu'elle a mangé aujourd'hui. 700 calories. Et la petite voix qui lui dit
« T'es boudinée, hein ? T'es affreuse, gourmande, grosse vache !»
Mais ce soir-là, dans le miroir, le temps d'un éclair, moins d'une demi-seconde, elle voit une fille qu'elle ne connaît pas. Une fille très pâle et très maigre. Ça va très vite, hein ? Et quand elle veut vérifier, non, tout est normal. Elle est bien grosse, elle est bien immonde. Quelques jours plus tard, elle est dans le bus avec ses amis.
Dis Solène, tu vois qui c'est Juliette ?
Ouais, je vois, pourquoi ?
Ben figure-toi, elle est malade. Elle passe ses journées à l'hôpital. Elle mange pas assez.
Ah bon ?
Elle est anorexique.
Et là, Solène est prise d'une sueur froide. Pourquoi est-ce que sa copine lui a raconté ça ? Est-ce que c'est parce qu'elle a vu ? L'anorexie, ça fait des semaines qu'elle repousse cette idée dans un coin de sa tête. Mais la voix est toujours là.
Elle veut juste t'empêcher de réussir. Regarde-toi, tu es loin d'être maigre.
N'empêche que le soir même, elle retourne sur Internet pour voir ce que signifie anorexie. Et cette fois, elle va un peu plus loin. L'anorexie est une vraie maladie qui touche surtout les jeunes filles perfectionnistes. La nourriture devient une obsession. C'est une maladie qui provoque une déformation de la vision du corps. La personne anorexique, devant son miroir, ne voit pas qu'elle est maigre. Ça lui parle. Honnêtement, ça lui parle. Mais elle ne va pas plus loin. Et c'est finalement sa mère qui fait le premier pas. Un soir, elle prend Solène à part.
Dis-moi, Solène. Je voulais te parler de quelque chose. J'ai l'impression que t'as pas eu tes règles depuis longtemps.
Non, je me trompe.
C'est vrai. Solène n'a pas eu ses règles depuis le mois d'octobre. Depuis donc 4 mois. Mais sur le moment, elle ment à sa mère.
Ouais. Enfin, ça fait juste 2 mois, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Si ça continue, j'irai chez le médecin.
La mère ne laisse pas passer l'occasion.
Non, Solène. On ira chez le médecin pendant les vacances de février, ok ?
Les vacances, justement. Solène et ses copines ont décidé de fêter ça en boîte de nuit. Solène essaye de danser, mais elle n'y arrive pas. Et surtout, elle est frigorifiée, alors que tout le monde crève de chaud. Et puis sur la piste, elle aperçoit Juliette, l'anorexique qui était à l'hôpital. Elle voudrait lui parler, mais elle n'ose pas. Et finalement, c'est Juliette qui vient vers elle, aux toilettes.
Salut Solène, ça va ? Ça va et toi ? J'ai entendu que t'avais eu des problèmes. Ça va mieux ? Ouais, un peu mieux. Mais je fais toujours attention. Dis, si je suis venu te parler, c'est parce que j'ai observé ce soir et puis j'ai vu les photos sur Facebook. T'es de plus en plus maigre, Solène, et pâle. Sérieux ? Tu rigoles ? Je me vois tellement énorme. Ouais, je sais. Mais tu sais, c'est un des symptômes de la maladie. T'en as parlé à tes parents ? À mes parents ? Ah non ! J'aurais trop peur qu'ils m'en veuillent. Hésite pas. Il faut que tu leur parles. N'attends pas de t'enfoncer encore plus.
Ça reste dans un coin de sa tête. Et finalement, elle accepte d'aller chez le médecin.
Alors Solène, pourquoi est-ce que tu viens me voir ? J'ai plus mes règles. Et puis j'ai perdu un peu de poids. Cette perte de poids, tu penses que c'est dû à quoi ? Bah, je fais du sport beaucoup. Puis j'ai du mal à manger.
Le médecin l'a fait monter sur la balance. 38 kilos.
Tu m'autorises à aller chercher ta maman dans la salle d'attente ? Maintenant ? Venez, madame. Bien. Je vais être assez direct. Il semble que Solène nous commence une anorexie mentale. Je vais lui prescrire des antidépresseurs, un anxiolytique aussi. Et il va falloir qu'elle voie un spécialiste des troubles du comportement alimentaire. On guérit pas de l'anorexie rapidement, je peux pas vous mentir. Va falloir des mois. Mais on en guérit, d'accord ?
Quelques jours plus tard, voilà donc Solène chez un spécialiste. Et là, elle monte sur la balance. 36 kilos.
Solène, est-ce que vous seriez prête à accepter une hospitalisation ?
Ben, si c'est pour mon bien,
d'accord.
Et le médecin leur explique à elle et à sa maman le mécanisme de l'anorexie.
Vous savez, c'est une maladie qui touche en général les jeunes filles brillantes, comme vous, et perfectionnistes, comme vous, sans doute. Mais en vérité, ce sont des gens qui ont très peu confiance en eux.
Une semaine plus tard, Solène franchit les portes du pavillon de psychiatrie de l'hôpital. On lui montre sa chambre. C'est là qu'elle va vivre pendant au moins 2 semaines. Absolument coupée de tout. Pas d'internet, pas de téléphone, pas de courrier, même pas le droit de rencontrer les autres malades du service. C'est dur, mais ça ne durera que 2 semaines. 2 semaines, ça va durer 9 mois.
Europe 1, on de la raconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'une jeune anorexique, Solène Revol, telle qu'elle la raconte dans un livre qui vient de paraître chez XO, « Une petite voix me disait de maigrir encore ». L'histoire commence au début de l'été 2014, quand elle décide de perdre 2 kilos. 6 mois plus tard, elle a perdu 13 kilos. Et elle finit par avouer à sa mère qu'elle n'a plus ses règles. Un médecin pose un diagnostic, anorexie mentale. Solène accepte une hospitalisation d'au moins 15 jours. Et 4 mois plus tard, elle est toujours à l'hôpital. Et elle continue de maigrir. Elle est enfermée, coupée de tout. Elle ne voit ses parents que pendant les thérapies familiales. Elle n'a plus aucun contact avec ses amis. Mais elle continue de maigrir. 34 kilos. 2 kilos de moins que quand elle est entrée à l'hôpital. Le chemin est long, très long, pour remonter la pente. Et il commence toujours par aller dans le mauvais sens. Et elle maigrit encore. 33 kilos. Mais elle commence à comprendre, grâce au psychologue qu'elle voit seule ou avec ses parents.
Solène, à quel moment est-ce que vous avez commencé à vouloir maigrir ? L'été dernier ? Et avant ça, vous étiez indifférente à votre apparence ?
Ah ouais ? Ouais, quand j'étais petite, je m'en fichais.
Est-ce que vous avez remarqué qu'avec l'anorexie, vous redevenez en quelque sorte une petite fille ? Hein, votre poitrine diminue, vos hormones disparaissent, vous n'avez plus vos règles ? Comme si vous vouliez revenir à une période antérieure. Il a raison. Elle trouve qu'il a raison. Et elle se met à pleurer.
Pour motiver Solène à manger, l'hôpital a instauré un système de paliers, un contrat de poids.
Je dirais qu'actuellement, il vous manque, disons quoi, 10 kilos, hein ? Donc si vous voulez des contacts avec l'extérieur, avec vos parents, avec vos copines, hein, va falloir reprendre du poids. 1 ou 2 kilos de plus, et votre cadre de permission s'élargira. Ok ?
Tous les mardis matins, l'hôpital organise un petit déjeuner collectif. Chacun peut se servir comme il veut. Il n'y a pas d'obligation, mais les patients peuvent avoir l'impression d'avancer par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Solène est là. Elle se sert un petit bout de pain, elle étale un peu de beurre dessus, elle attrape le pot de Nutella et à côté d'elle, une patiente visiblement impressionnée lui dit
« Courage, ma belle !»
Mais en même temps, elle entend toujours la voix.
« Ne fais pas ça, Solène ! Tu vas le regretter !»
Elle porte la tartine de Nutella à la bouche. C'est bon, c'est succulent.
« N'importe quoi !» Ça n'est pas bon du tout. Tu vas encore grossir. T'es déjà grosse.
La voix peut dire ce qu'elle veut. Elle est fière, fière de ce petit bout de pain avec du Nutella. Et c'est comme ça, à base de minuscules bouchées de pain et Nutella, qu'au bout de 6 mois, Solène finit par atteindre 38 kilos. 2 kilos de plus qu'à son arrivée il y a 6 mois. Pour la féliciter, les médecins lui autorisent le courrier. Et là, des dizaines de lettres d'encouragement arrivent, de ses amis, de sa famille. Il va falloir plus de 9 mois pour atteindre 45 kilos. Et donc, quitter l'hôpital. La sortie a lieu le 30 décembre 2015. Mais attention, tout n'est pas réglé. Les médecins l'ont prévenu, l'anorexie connaît un taux de rechute très important. Il va falloir faire très attention pendant des mois, pendant des années, et revenir chaque mercredi à l'hôpital pour faire le point. Dans son livre, Solène écrit « Aujourd'hui, je suis consciente de mes qualités et de mes faiblesses. Je n'ai plus besoin d'être la première. J'ai juste besoin de goûter au bonheur. » Et c'est la fin de ce récit. Solène, ça va ?
Oui, oui, émue.
Émue ? Il n'y a pas eu de rechute depuis la sortie du livre ?
Non, ça a été compliqué pendant un moment, mais je n'ai pas rechuté.
Parce qu'en fait, vous êtes exactement au poids auquel vous étiez quand vous êtes sorti de l'hôpital.
Bah ouais.
C'est un combat quotidien pour vous.
Ouais.
Ça... Encore.
Je dirais que vraiment, il s'espace de plus en plus. Enfin, ça va vraiment de mieux en mieux.
La promotion, l'écriture et la promotion de ce livre dans les médias, est-ce que ça vous a été utile ?
Ouais, ça porte mon combat parce que justement, je me dis que je suis un exemple pour les autres de montrer que j'ai réussi à remonter la pente. Et justement, je veux continuer à être cet exemple et justement, ça porte mon combat encore plus loin.
Parce qu'en vérité, vous savez que les gens qui lisent votre livre sont, sauf à être totalement masochistes, soit des parents, soit des grands-parents, soit des adolescentes qui sont passées par là.
Oui.
Donc vous avez une petite fonction auprès d'eux.
Ouais. Et je sais que j'en aurais eu besoin pendant que j'étais malade. Mmh. Et du coup, je suis contente de pouvoir le faire pour les autres.
C'est-à-dire qu'un livre comme ça vous aurait fait du bien, vous pensez, à un moment ?
Je pense pour prendre conscience des choses. Peut-être pas pendant la phase de déni, mais dans la phase où de prise de conscience, ça m'aurait aidé, je pense.
Donc Juliette, quand elle vient vous voir dans cette boîte de nuit, elle est elle-même anorexique.
Oui.
Et elle vient vous dire, attention, toi aussi, tu es anorexique. Elle a eu raison.
Oui, ça a été un déclic.
Ouais. Mm. Vous en avez reparlé avec elle ?
Ouais. C'est marrant parce que du coup, à mon tour, après, quand je suis sortie de l'hôpital, moi, je l'ai fait avec d'autres filles. Et du coup, je trouve qu'on cède comme ça, petit à petit. Dès qu'on envoie une chutée, on rattrape.
C'est-à-dire quand vous croisez quelqu'un que vous connaissez pas dans la rue, vous êtes capable d'aller la voir ?
Non, peut-être pas. Non, quand même.
Mais au lycée ou à la fac ?
Voilà.
À la fac, parce que vous êtes toujours bon élève.
Oui.
ça n'a pas changé.
Non.
Et vous avez toujours confiance en vous pour la scolarité ?
Oui.
Ouais.
Oui.
Ça n'a pas bougé. On va revenir sur, évidemment, quelques points de ce récit dans un instant. C'est juste après la pause. Votre livre s'appelle « Une petite voix me disait de maigrir encore ». Il paraît chez XO Éditions.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de Solène qui est là avec moi, Solène Revol, tirée de son livre paru chez XO, Une petite voix me disait de maigrir encore, qui est l'histoire, Solène, de votre plongée à l'âge de 15 ans dans l'anorexie mentale. Vous êtes descendu jusqu'à 37 kilos et vous racontez aussi le long chemin qu'il vous a fallu gravir pour en sortir et regagner du poids. Est-ce que vous avez conscience, mais je suppose que oui, que l'anorexie mentale, pour quelqu'un qui n'est pas passé par là, est quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre. Moi, de toutes les problématiques de l'adolescence, c'est celle à laquelle j'accède le moins. Est-ce que vous êtes capable de nous expliquer aujourd'hui quelle est cette mécanique qui s'est mise en place dans votre vie ?
En fait, au début, c'est comme toute personne qui veut perdre un peu de poids, c'est juste l'idée de faire attention. Donc ça vient que pendant les repas.
Oui.
Et petit à petit, en fait, ça s'installe où à chaque repas, ça devient un automatisme de contrôler ce qu'on va manger, de faire vraiment attention. Et en fait, à partir du moment où on se dit « Ok, peut-être que c'est bon », en fait, il y a cette pensée que c'est pas assez. Et ces pensées sur la nourriture, elles s'ancrent en nous. Et on arrive même à penser à la nourriture entre les repas et à prévoir ce qu'on va manger parce qu'on est dans le contrôle extrême de l'alimentation.
Mais c'est pas assez, c'est la clé, en fait. C'est-à-dire que, et c'est intéressant parce que vous racontez aussi dans votre livre le rapport que vous avez à votre scolarité. Ça n'est non plus jamais assez. C'est pas assez. Je ne suis jamais assez en contrôle de moi-même.
Ouais.
C'est ça le mécanisme
de
la maladie.
C'est jamais assez parfaite, en fait.
Mais est-ce que en sortir, en guérir, c'est rechercher dans son histoire personnelle un traumatisme?
Je pense que oui, il faut arriver à essayer de trouver ce qui nous a mené là-dedans justement pour faire le chemin inverse et reprendre confiance en soi.
Je vous demande pas, parce que c'est impudique, de nous dire ce qui vous a mené vous, mais vous y êtes arrivé?
Oui.
À trouver le déclic?
À trouver les déclics pour m'en sortir, oui. À trouver les causes
pas encore
précises, non.
C'est-à-dire que vous allez chercher encore?
Je sais pas, pour l'instant j'ai fait j'ai compris ce qui m'avait mené là-dedans sans parler d'un événement particulier. Et j'ai trouvé les clés pour lutter contre ça.
Ouais. Mais la raison particulière, pour l'instant, elle n'est pas identifiée.
Je dirais qu'il y en a plein de petites et celles-là, je les ai identifiées.
Ouais. Vous êtes toujours en thérapie?
Plus vraiment. J'ai presque plus de rendez-vous.
On peut s'en passer?
Ouais. Ouais, ouais.
Et vous n'êtes pas tenté d'aller chercher, gratter profond par une psychanalyse?
Non, je pense qu'il faut que je passe à autre chose et c'est ça aussi qui va me mener à une guérison complète, si je peux dire.
Est-ce que c'est parce que, au fond, cette maladie ramène à quelque chose de très 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 intime que les parents ont du mal à voir?
Je pense que c'est le fait que ce soit très progressif, surtout qui rend la chose difficile à voir. Et aussi le fait de se dire tout va bien et de voir que la personne semble heureuse, comme je semblait heureuse et que j'avais l'air parfaite, mes parents ne pouvaient pas se douter que j'étais mal, en fait.
Vous étiez tellement mal que vous passiez beaucoup de temps à pleurer, mais seule.
Ouais. Je voulais pas montrer mes faiblesses, parce que justement j'avais l'image de la petite fille parfaite et je voulais pas la perdre.
Parce que votre maman, on voit bien qu'assez vite elle perçoit des signes, mais elle n'arrive pas à mettre des mots dessus. Et pourtant, on peut pas dire qu'on n'en parle pas dans les médias de l'anorexie mentale.
C'est qu'en fait, je le cachais tellement bien qu'il y avait tout pour croire que j'avais rien, en fait. Et quand elle me disait quand c'était un repas, je trouvais toujours un moyen de dire que j'avais déjà mangé ou de manger et puis le lendemain de compenser en faisant plein de sport.
Mais votre maman, elle voit des trucs, mais votre papa, il voit rien du tout. Et d'ailleurs, il en culpabilise, culpabilise un peu. C'est dur pour lui.
En fait, pour lui, c'était le sport parce que je courais beaucoup avec lui. Et il était fier de voir que sa fille, elle suivait et on partageait ces moments ensemble. Et pour lui, c'était vraiment une fierté de me voir de plus en plus sportive.
Oui. Vous avez recommencé à courir?
Oui.
Avec lui?
Ouais.
Ouais.
C'est sympa.
Bon, c'est sympa. Alors, vous êtes sincère quand vous dites, quand cette petite voix dit que vous êtes boudiné, que vous êtes immonde, que vous êtes une grosse vache. C'est pas un jeu, c'est pas un mensonge que vous faites. Vous y croyez vraiment?
Ouais, c'était vraiment dans ma tête. Pour moi, j'étais grosse, vraiment.
Alors, on voit que la même mécanique affecte votre scolarité. Cette séquence du contrôle de maths est vraiment intéressante parce que il y a beaucoup de choses là-dedans. Vous avez 19 de moyenne générale. Hein ? Il y a zéro, il y a rien à réviser. Quand on a 19 de moyenne, ça veut dire qu'on a assimilé en cours et que au moment du contrôle, on aura 19, quoi. Et vous allez quand même bosser. Ça a changé, ça, ou pas?
Oui. Ouais. J'ai beaucoup relâché et maintenant j'ai des bonnes notes. Bon, peut-être pas des 19, mais j'ai des très bonnes notes. Et pourtant, je bosse beaucoup moins qu'avant.
Moins de 19 quand même. C'est-à-dire, vous êtes moins performante?
Non, c'est différent. C'est puisque je me mets moins la pression et que je cherche pas à avoir 19.
En vérité, vous êtes le strict opposé d'un personnage qui est bien connu, qui est le branleur de la classe, qui en fait pas une et qui lui a 15 de moyenne. Et c'est pas juste. Lui, il se fait confiance.
Ouais.
Et vous pas?
Non.
Vos parents ont mis donc du temps à ouvrir leurs yeux. Est-ce que quelque chose aurait pu les leur faire ouvrir avant? Est-ce qu'il y a un moyen, une prévention à faire vis-à-vis des parents là-dessus?
Je pense que une fois qu'on est un peu plus au courant de tout ça, on le remarque plus facilement. Enfin, je sais que il y a des des proches, enfin des gens qu'on connaît qui ont eu leurs enfants qui ont basculé aussi là-dedans. Et le fait d'avoir reconnu un cas à côté, ben du coup ils ont tout de suite appelé mes parents pour savoir si c'était ça, s'il y avait les symptômes.
C'est rigolo parce que je pensais que votre prénom aurait dû vous amener à la vérité assez vite, puisque donc la maison qui s'occupe à Paris des jeunes filles anorexiques, c'est la maison de Solène, qui est la fille qui était la fille de Patrick Poivre d'Arvor, hein, qui est morte d'anorexie mentale. Le risque de la mort.
On m'en a fait prendre conscience à l'hôpital et ça a été un des déclics pour m'en sortir justement. Ouais. Parce que le fait de me mettre la vérité en face, que en fait la maigreur c'était pas la solution, c'était au bout de la maigreur il y avait la mort.
On va marquer une nouvelle pause et continuer cette conversation. J'aimerais savoir, vous me le direz tout à l'heure, si vous en voulez à mescalories.com ou lescalories.com.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de Solène qui est avec moi, Solène Revol, une histoire que j'ai tirée du livre que vous avez écrit, Solène, avec vos parents et avec votre petite voix maléfique qui s'appelle « Une petite voix me disait de maigrir encore ». Il est paru au mois de mars aux éditions XO et c'est donc l'histoire de votre plongée à l'âge de 15 ans dans l'anorexie mentale jusqu'à descendre à 37 kilos et puis de votre remontée jusqu'à 46 kilos aujourd'hui et peu mieux faire. C'est un moment assez terrible de l'histoire que ce chantage qu'on vous fait à l'hôpital. Moi, on est comme ça de l'extérieur, hein. On est un peu surpris de la méthode. C'est-à-dire en gros, si vous regagnez des kilos, vous avez le droit à aller sur internet ou à recevoir des lettres de vos copines, quoi.
Ouais, c'est terrible, c'est vraiment du chantage, mais à la fois c'est nécessaire. Parce qu'en fait, les soignants, ils sont pas contre nous, mais ils sont contre la maladie. Et justement, pour nous sortir de ça, il faut nous donner des objectifs pour qu'on lutte contre la maladie. Parce que si on n'a pas d'objectif, ben, on se dit que c'est foutu et que de toute façon, cette voix, on l'a dans la tête.
Mais c'est étonnant parce que ces objectifs se mesurent qu'en kilos, quoi.
Ouais.
Pas en bonheur, mais en kilos.
Bah, le bonheur, il est derrière, puisque en fait, au bout de 1 kilo, on avait le droit du courrier, après 1 kilo de plus de la visite.
Mais ce qui est marrant, c'est que c'est une inversion de l'obsession. C'est-à-dire de l'obsession à en perdre, vous passez à l'obsession à en gagner.
Oui, enfin l'obsession d'en gagner, mais c'était simplement pour avoir plus d'ouverture.
Ouais.
C'était pas, l'envie de prendre les kilos, elle est pas là tout de suite.
Ouais. Et aujourd'hui, cette obsession est toujours là, je suppose. C'est-à-dire en gagner.
Oui, enfin, je suis bien comme je suis maintenant.
Donc à 46, maintenant, vous estimez que c'est votre poids de forme.
Bah, j'en
sais rien. C'est un compte, hein, votre poids de forme.
Bah, j'ai retrouvé mes règles et, j'ai le droit de refaire du sport. Enfin, c'est mon corps fonctionne très bien maintenant.
Donc le but, c'est quoi? C'est de se stabiliser maintenant.
Bah, maintenant, c'est de ne plus en perdre, ça c'est sûr. Et puis après, ça vient naturellement en fonction de mon corps.
C'est vous pesez tous les jours, matin et soir?
Je ne me pèse jamais.
C'est vrai?
Ouais, enfin, juste à l'hôpital.
Cela dit, chacun sait qu'on se voit dans la glace. Quand on est capable de se voir, on n'a pas besoin de se peser. Hein, je sais pas si vous avez fait l'expérience, moi je l'ai fait. Hein. Je sais que si je me vois dans la glace et que je vois que j'ai pris 3 kilos, je me mets sur la balance et je les ai pris, quoi. Quand on est lucide, on est lucide. Vous en voulez à ce site mescalories.com? Est-ce qu'il a joué, ou lescalories.com, est-ce qu'il a joué un rôle néfaste? Est-ce qu'il faut ouvrir un débat? Interdisons les sites qui permettent de mesurer les calories.
Bon, je veux pas du tout lancer de débat sur ça.
Ouais.
Après, c'est vrai que je trouve que c'est pas... Le fait qu'on les... Enfin, on est amené à chercher les calories quand on est malade. Et le fait d'y avoir accès, ça nous pousse encore plus dans un contrôle extrême. Et c'est sûr qu'on ne peut pas empêcher ça. Mais je trouve que c'est un peu malsain de contrôler la nourriture comme ça. Même en voulant perdre du poids, il y a d'autres façons que de compter les calories.
Alors, en quoi consiste cette thérapie que vous suivez à l'hôpital pendant 9 mois? Ce sont des psychologues, des psychiatres.
Ouais.
Il y a du monde.
Il y a du monde. Il y a les infirmiers qui sont là toute la journée pour au moment des repas répondre à nos angoisses, nous rassurer sur ce qu'on mange, que c'est pas malsain, que c'est pour notre bien.
Ouais.
Et puis il y a une grosse prise de conscience sur soi-même où on a des moments seuls et le fait de se dire je suis à l'hôpital, c'est que j'ai un problème. Et ça nous fait accepter la maladie petit à petit et accepter le fait de devoir sortir de ça.
Vous êtes resté longtemps seul dans cet hôpital, sans contact avec les autres malades?
Oui, j'ai eu 5 mois sans sortir de la chambre, sauf pour les thérapies familiales.
C'est horrible ça, 5 mois toute seule.
Oui.
Mais utile.
Ouais. Après, je sais que c'est pas la même thérapie pour toutes les personnes. On n'a pas toutes besoin de la même façon de nous aider. Mais moi, ça a été vraiment nécessaire pour me rendre compte de ce qui arrivait. En fait.
C'était des thérapeutes qui étaient spécialisés dans l'anorexie mentale. Parce que ça aussi, c'est une autre question. C'est on peut aller voir des médecins et puis tomber sur des médecins qui n'y connaissent rien, qui ne voient rien, qui ne savent rien là-dessus. Ça arrive.
Oui.
Ouais. Le médecin que vous allez voir, il savait déjà, lui.
Alors, il connaissait, mais il n'était pas spécialiste. Il nous a tout de suite dit qu'il fallait aller voir des spécialistes.
Alors, c'est une maladie qui touche essentiellement les filles. Est-ce que vous savez pourquoi ?
Je pense que c'est parce que une fois qu'on commence à faire attention à sa nourriture, les filles sont beaucoup plus amenées à avoir l'image en face d'elles de la femme parfaite des magazines, la femme parfaite des médias. Et souvent l'image, c'est une femme très mince. Et le fait que quand on est malade, on se voit pas mince, justement, ça nous soutient dans cette idée de je dois être plus maigre. Et ça fait un rappel en fait en permanence à chaque fois qu'on allume la télé.
C'est-à-dire que vous confirmez bien l'idée que ces fameuses images de mannequins maigrissimes comptent dans l'idée que vous vous faites de ce qu'est une belle femme.
Ouais. Oui, elle déclenche pas la maladie, mais elle
oui, c'est la ça, la maladie est là quand même.
C'est ça, oui.
Elle s'en passe
pas. Je pense pas que ça déclenche une maladie, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est un mal-être plus profond.
Mais vous êtes comme ça, vous êtes girly à regarder un peu les magazines, les...
Je ne l'étais pas du tout, mais...
Pas consciemment.
Voilà, pas consciemment.
Mais victime d'un modèle quand même, vous pensez ?
Je pense, oui.
Ouais. Est-ce qu'il y a une communauté d'anorexiques ou d'anciens anorexiques qui se créent.
Ouais, il y en a. Je sais que sur Instagram, il y a une belle communauté de plein de jeunes femmes qui...
Vous savez parce que vous y êtes.
Non, je n'y suis pas, mais j'ai déjà vu, ouais.
Mais du coup, est-ce que vous avez des copines qui sont comme vous, qui sont passées par là?
Oui, il y a celle que j'ai rencontrée à l'hôpital.
Il y a la fameuse Juliette qui ne s'appelle pas Juliette, mais qu'on appelle Juliette.
Il y a aussi toutes celles que j'ai rencontrées à l'hôpital.
Ouais.
Avec qui j'ai gardé des liens très forts.
Ouais.
Et puis après j'ai eu des rencontres au fur et à mesure, puis là encore plus avec le livre où il y a des jeunes filles qui me contactent pour que je leur donne un peu des astuces.
Et donc vous répondez ?
Je peux pas répondre à tout le monde, mais il y en a deux trois qui me font vraiment plaisir et je réponds. Ouais.
Maintenant que vous êtes au courant, alors on va se projeter un peu. Vous allez avoir 20 ans là, dans quelques semaines, c'est ça ?
Quelques jours.
vous deviendrez peut-être maman. Est-ce que ça sert à quelque chose ? D'être attentive. En tant que maman, à la manière dont sa fille grandit.
Oui, je pense qu'il faut être attentif. Alors après, je peux pas, enfin, comme ma mère l'a été, on peut pas lui en vouloir de ne pas avoir vu ça.
Oui. Ma question c'est, en gros, si on était venu vous voir au mois de septembre, quand vous aviez perdu vos 4 premiers kilos, et quand vous avez dit, Solène, tu files un mauvais coton, t'es sur la voie de l'anorexie.
Alors ça m'aurait pas forcément plu. Enfin, ça aurait sûrement mis un énorme conflit entre mes parents, mes amis. Mais comme j'ai l'habitude de dire, c'est que il vaut mieux provoquer le conflit et faire en sorte que la personne elle commence à en prendre conscience avant de tomber trop bas. Parce que en fait, c'est avec des petits rappels comme ça de t'es trop maigre, tu manges pas assez, des petites choses qu'on nous dit au quotidien qui nous font prendre conscience qu'il y a peut-être un problème.
Donc tous ces gens qui, à la piscine, au basket, sont venus vous dire « mais t'es maigre quand même, Solène ?» Et leur remarque était utile, alors qu'elle était terrible à entendre.
Elle était terrible, ça a été hyper douloureux, mais c'est vraiment utile pour en prendre conscience.
Merci Solène, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je rappelle donc ce livre, absolument disponible en librairie puisqu'il est sorti très récemment. Une petite voix me disait de maigrir encore, de Solène Revol, aux éditions XO. Demain, je vais vous raconter une histoire absolument formidable à laquelle vous ne serez absolument pas obligé de croire, je vous le dis tout de suite. Un jour, Vincent Alix, que vous connaissez peut-être, il a été animateur à M6, c'est un journaliste qui est spécialisé dans le paranormal, voit au cours d'une méditation un officier SS, Hermann, Alexander Hermann. Et il va s'apercevoir que cet officier a véritablement existé. Ce sera demain,
Et dans l'immédiat, c'est avec Thomas Touroud et Yapa Peno que vous avez rendez-vous.
Salut Christophe, on sera rendez-vous demain pour cette histoire qui effectivement a l'air formidable. Nous, on a rendez-vous avec Julien Cazard, Didier Roustan, Anissa Dadi et notre invité, l'humoriste Thomas VDB, ici en direct de Roland-Garros. Alors ça tombe très bien parce que dans Yapa Peno, on parle un peu de foot et un peu de tennis puisqu'on est à Roland-Garros. Et notre invité ne connaît ni le football ni le tennis. Donc on va passer un très bon moment jusqu'à 18h.
Et vous serez à la bourre parce qu'on est à la bourre. Exactement. C'est parti.
C'est pas très bien. Europe 1.